BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains, en effet, de passer le restant de nos jours. Et les blockchains en contiennent une partie. Les blockchains, les cryptos associés ont leur rendez-vous chaque vendredi sur BFM Business, les pros des cryptos. Stanislas Barthélémy nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Bienvenue, consultant blockchain partner pour KPMG France. Owen à nos côtés aussi, Owen Simonin. Bonjour Owen.
Bonjour.
À la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. Puis Vincent Gann aussi nous accompagne en cette fin de semaine, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume, bonjour.
Vincent, commençons par les fondamentaux. On disait les marchés européens n'avaient jamais connu un début d'année aussi positif. Meilleure première quinzaine de l'histoire des marchés européens avec beaucoup d'indicateurs intéressants, des fondamentaux lourds qu'il a fallu digérer cette semaine. Quel impact est-ce que vous observez pour le marché crypto ?
Écoutez, vous avez déjà très bien décrit ça sur votre antenne, mon cher Guillaume, mais bon, pour les auditeurs qui arriveraient maintenant, effectivement, c'est une semaine fondamentale idéale pour les actifs risqués. Alors, pour résumer, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, 4-5 mois consécutifs de désinflation. Alors, est-ce qu'on peut pour autant crier victoire contre l'inflation? On sait que hors énergie, ça reste un peu décevant, mais anyway, les actifs risqués en bourse, en particulier le marché actions, propose un début d'année quasi exceptionnel pour les actions européennes. Je donne juste un exemple. Je sais qu'on parle de crypto, mais parlons un peu de CAC 40. Mm-hmm. Pour les auditeurs, le cours du CAC 40, lorsqu'on lui réinvestit les dividendes, donc les coupons qui sont détachés, les actionnaires connaissent bien, les actionnaires français connaissent le principe, lorsqu'on réinsère les dividendes, le CAC 40 gross return, il gagne 25% depuis 3 mois et il est tout proche en fait de son record historique, en fait celui avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors ça peut paraître un peu euphorique, mais en tout cas c'est comme ça que le marché actions européen se comporte. Quant au marché crypto, alors oui, la semaine elle est belle, on va pas se mentir, le bear market il a commencé depuis 15-16 mois, voire même depuis le printemps 21 pour certains, une semaine à plus 10% sur le cours du Bitcoin, ça donne un peu d'air, ça fait plaisir. Après, d'un point de vue relatif, il faut pas non plus s'exciter, si vous me permettez l'expression, parce que déjà, relativement parlant, face au marché actions, c'est décevant. Sur la même période, le dollar américain a perdu 11 ou 12%. Donc voilà, on met les choses un peu en perspective. Mais tout de même, c'est une semaine à plus 10% pour le cours du Bitcoin. Alors maintenant, j'imagine que votre prochaine question concernera les conséquences techniques.
Oui, sur le plan technique, justement. Alors on voit le Bitcoin quand même qui remonte bien. On est à plus de 19 000 $. Quelle synthèse faites-vous sur le plan technique des arguments haussiers face au risque baissier qui peut-être perdure quand même pour le cours du Bitcoin?
Oui, alors les risques baissiers, soyons clairs, hyper durs, ils sont toujours bien présents. Mais tout de même, alors c'est une semaine intéressante. Pourquoi? Parce que on dépasse, je vais utiliser du jargon chartiste de base, on dépasse une résistance, ce qu'on n'avait pas fait sur le cours du Bitcoin depuis novembre 2021. Ça fait, moi, vous savez, je suis amoureux des graphiques. Enfin, c'est une façon de parler.
Vous aimez les cours, Vincent. Les cours.
Voilà. ça fait longtemps que je n'avais pas vu le dépassement d'une résistance sur le cours du Bitcoin. Alors, restons quand même sereins. Pour les auditeurs, ils doivent avoir en tête un niveau de prix. Je vais m'exprimer en dollars américains. La résistance des 19 000, 20 000 $. D'ailleurs, nous sommes en train de l'attaquer. Si cette résistance venait, alors d'ici la fin de semaine, d'ici dimanche, ou encore mieux, d'ici la fin du mois, à être dépassée de manière ample avec un retour de la participation, là oui, nous pourrions affirmer, argumenter techniquement en faveur d'une fin de bear market qui aurait été établie à 15 000 $. Mais c'est pas encore acté, je termine là-dessus. Moi, je regarde beaucoup les indicateurs de volume de participation. Je m'intéresse notamment aux grands ETF Bitcoin, et notamment à celui d'un émetteur, bref, à l'ETF numéro 1 mondial en termes d'Asset Under Management, d'AUM. Et il y a un début de pontification haussière de cet engagement. Donc voilà. Il y a, comment dire, une petite étincelle, il y a un petit vent de fraîcheur aussi qui arrive sur le marché crypto. Mais maintenant, il faut confirmer ça en envoyant du lourd sur le plan technique d'ici la fin du mois.
Vincent Gann, analyste technique indépendant, on rappelle à ceux qui nous suivent qu'il ne faut pas investir l'argent dont vous n'avez pas besoin. Il faut investir que l'argent que l'on est prêt à perdre sur cet univers extrêmement volatile. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés. Tiens, on va prendre tout de suite des nouvelles de FTX. Bonne ou mauvaise nouvelle d'ailleurs cette fois? Parlons-en. Une équipe spéciale, Stanislas, a été déployée pour retrouver les fonds de Alameda et de FTX. De nouveaux chiffres sont d'ailleurs sortis cette semaine.
Exactement, ce n'est pas une mince affaire. Suite au drame FTX, l'idée c'est d'essayer de recouvrer le maximum de sommes possibles pour essayer de faire en sorte que investisseurs ou déposants sur la plateforme FTX puissent retrouver en partie les fonds qu'ils avaient déposés. Donc depuis le début, c'était assez, on va dire, pessimiste. On s'attendait, certains, sur des bribes d'informations, que 20% pouvaient être récupérés. Et là, 5 milliards ont été retrouvés. C'est ce qui a été annoncé par les liquidateurs, en l'occurrence, qui sont à pied d'œuvre. 5 milliards dans des jetons et des cryptos qui sont plutôt liquides et des investissements dans des entreprises qui pourraient être cédées aussi. Donc 5 milliards, c'est pas négligeable et ça montre plutôt l'estimation de 20 à 40% des sommes qui peuvent être recouvrées. Dans le même temps, il y a aussi un accord pour vendre certaines parties du groupe FTX, notamment Ledger X qui avait été acheté à l'époque, aucun rapport avec Ledger en France, mais qui avait été acquis à l'époque, même FTX Europe qui pourrait être vendu éventuellement. Et donc les liquidateurs ont force à faire pour vendre tout ça, et 40%, ça pourrait être environ le montant récupéré par ceux qui ont déposé. Toujours mieux que rien, donc c'est relativement une bonne nouvelle.
On est entre la bonne et la mauvaise. C'est relativement une bonne
Exactement.
Nouvelle. On va continuer d'évoquer les victimes de ce hack. Un marché secondaire a également été ouvert. Que sait-on, Owen, de ce marché secondaire ?
Alors, cette plateforme s'appelle Xclaim, même si je ne doute pas du fait qu'on va voir d'autres noms apparaître un peu partout. Et cette plateforme permet à certains utilisateurs de céder leur compte, s'ils arrivent à prouver qu'ils avaient un compte sur ces plateformes et qu'ils arrivent à prouver le montant de crypto-monnaie qu'il y avait sur ces plateformes. En l'occurrence, il s'agit évidemment des plateformes qui sont sous le chapitre 11, notamment FTX, Celsius, Voyager et BlockFi. Et les taux d'échange actuels sont de 15% pour FTX, 18% pour Celsius, 40% pour Voyager et 30%. Pour faire très simple, si vous aviez 100$ sur la plateforme FTX, vous pouvez aujourd'hui, maintenant, tout de suite, trouver quelqu'un qui achèterait votre compte en vous le payant 15$. Mais suite à l'annonce qu'on vient d'avoir avec le risque potentiel et la chance de pouvoir retrouver jusqu'à 40% solde sur FTX par exemple, pourquoi est-ce qu'on voudrait vendre son compte 15%? Eh bien, il y a des avantages et des inconvénients. La première, c'est le fait que très peu de gens aujourd'hui peuvent prouver avoir un certain solde sur FTX. Voilà pourquoi déjà il y a une vraie différence entre le prix annoncé par potentiellement l'équipe qui s'occupe de la curation d'FTX et ce que peut espérer un utilisateur s'il vend son compte aujourd'hui. Ensuite, il y a des délais. Si on passe par la justice et qu'on attend de pouvoir retrouver une partie de son solde, on va probablement devoir attendre des mois, même des années, avant de pouvoir retrouver son solde. Voilà pourquoi on peut espérer beaucoup plus, selon les liquidateurs, que le prix actuel d'un compte FTX sur le marché. De la même façon, on s'attend également, pour beaucoup de personnes qui veulent acheter des comptes aujourd'hui, c'est un pari. On ne sait pas, c'est un marché qui est très spéculatif, puisqu'on va acheter le solde d'un utilisateur dans quelques années, sans savoir si le prix des crypto-monnaies sur son compte vont évoluer d'ici là.
Et il n'y a pas que l'affaire FTX dans la vie, même pour l'écosystème, le cœur de l'écosystème crypto continue de battre. On voit même cet écosystème continuer d'étendre son influence. Le géant Amazon, par exemple, noue un partenariat avec Avalanche, une blockchain de Layer One. Owen, quel sera le format, quelle sera l'utilité de ce partenariat entre Avalanche et Amazon ?
Ce partenariat a fait beaucoup de bruit et il est tombé dans la bonne semaine pour le token AVAX de la blockchain Avalanche. Puisque dans les deux... Le marché des crypto-monnaies a pris beaucoup de valeur et Avalanche est l'un des plus gros gagnants et a fait un effet de levier avec cette actualité. Le jeton AVAX a pris plus de 36% de hausse dans les 7 derniers jours. Ce partenariat avec Amazon Web Services permet à n'importe qui de lancer en un clic un validateur sur le réseau. Le Proof of Stake, qui est le consensus de sécurisation de la blockchain Avalanche, demande aux utilisateurs de maintenir ce que l'on appelle des validateurs afin, pour faire simple et pour vulgariser, de sécuriser la blockchain et de valider les différents blocs qui viennent s'ajouter à cette blockchain. En l'occurrence, on a besoin d'un serveur informatique et ce que propose Amazon aujourd'hui en partenariat avec Avalanche, c'est de proposer une infrastructure où en un clic, vous pouvez lancer votre validateur, ce qui va aider énormément de gens, notamment au maintien de l'infrastructure globale de la blockchain Avalanche. Mais ce n'est pas tout. Avalanche envisage dans ce partenariat d'aller plus loin et de proposer des services sur mesure, notamment des sous-réseaux, pour les différentes institutions qui utiliseraient à travers AWS les différents services de la blockchain Avalanche. Il y a également d'autres informations, notamment des programmes d'Amazon que vont rejoindre la blockchain Avalanche qui pourraient leur libérer certains budgets, notamment pour les différentes équipes de développement. Et il y a même, en rejoignant le programme d'Amazon Amazon GovCloud, des infrastructures blockchain, donc des infrastructures décentralisées, qui vont pouvoir être normées et respectées à certaines obligations des autorités fédérales et étatiques des États-Unis.
Partenariat donc entre Avalanche et Amazon, c'est pas la première annonce du genre, Stanislas. On a vu d'autres décisions de partenariat entre les GAFAM et l'écosystème crypto, notamment entre Google Cloud et Solana, par exemple. Qu'apportent ces partenariat à l'industrie crypto?
Dans la continuité de ce que dit Owen, c'est la facilité à déployer, donc à construire sur ces infrastructures, si on a envie de construire, évidemment. Et j'ai envie de dire, c'est gagnant des deux côtés. Dire pour un protocole, c'est très intéressant d'avoir des grands noms, des GAFAM qui les aident un peu à rendre leur infrastructure plus facile d'accès. Mais c'est aussi pour ces protocoles-là un bon moyen de se mettre en avant avec une communication. On le voit sur des tweets, sur des communiqués de presse. Donc ça les met bien en avant. Mais pour les plateformes de cloud que sont Amazon et Google, faut pas se leurrer, c'est un moyen aussi de faire du business. Donc il y a un peu cette double relation gagnant-gagnant, et comme le disait Owen, ça tombe bien. Alors là, pour le coup, pour Avalanche, un peu moins sur Solana qui a eu des difficultés, sachant que on peut déjà déployer des nœuds Ethereum dans AWS, dans Amazon, c'est tout à fait possible. Il y en a déjà un nombre assez conséquent qui le font déjà. Donc c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire.
Les infrastructures crypto qui continuent donc de tisser des liens avec certains géants mondiaux. Pendant ce temps, en France, la réforme des retraites. Vous connaissez l'adage, l'humanité a connu trois âges. L'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de la retraite en France. Alors, je ne sais pas pourquoi on en parle ici. Enfin, si, il y a quand même un point commun entre le calcul des retraites et votre univers, messieurs. L'univers crypto, c'est la complexité. Il faut reconnaître que tout ce que vous nous expliquez est complexe et vous essayez de l'expliquer le plus simplement. Pour ceux qui veulent comprendre les cryptos, c'est sans doute ici, dans les pros des cryptos, que vous trouverez les efforts de vulgarisation sans se priver de rester quand même expert et sur un haut niveau d'expertise. Ben pour les retraites, c'est pareil. On essaie d'expliquer cette réforme sur BFM Business avec des mots simples, mais en allant jusqu'au fond des complexités. Et à propos de sujets complexes, évoquons Shanghai. Pas la ville, ce serait trop simple pour vous, là, dans l'univers crypto. Non, non, quand on parle de Shanghai dans l'univers crypto, on parle pas de la ville, on parle d'autre chose. On parle d'un update majeur à venir sur la blockchain Ethereum, en l'occurrence. Il s'agit, Stanislas, d'une mise à jour, en fait, du réseau Ethereum, mise à jour prévue pour le mois de mars prochain.
C'est ça. Il faut considérer Ethereum.
C'était trop simple sinon, Shanghai, non.
Il faut considérer Ethereum comme quelque chose d'un peu organique, qui vit sa vie et s'améliore. C'est dans la droite continuité de ce qui s'est passé en septembre dernier. N'oubliez pas, avec The Merge, c'était déjà une nouvelle innovation. C'était le passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu qui s'est plutôt bien déroulé. Sauf que ce passage à la preuve d'enjeu fait que les acteurs qui devenaient validateurs avaient leur montant bloqué. On ne pouvait plus enlever et retirer son validateur pour recouvrer ses fonds. Et Shanghai est donc l'étape suivante, j'ai envie de dire que les deux sont étroitement liés, qui permet de récupérer ces aides mises en validation pour en faire un peu ce qu'on veut. Il y a quelques acteurs qui pourraient être amenés à récupérer leurs fonds. Ceux qui, par exemple, ont acheté des Ethers pas chers et qui aujourd'hui, mine de rien, il y a beau avoir une croissance et une dépréciation du prix de l'actif, on a généré des Ethers et l'Ether a peut-être progressé. Donc on va récupérer ces Ethers pour les vendre. Ou au contraire, des acteurs qui ont acheté de l'Ether à 4 000 $ et qui les ont bloqués pendant quelques mois, ils sont peut-être sous l'eau et ont envie de les vendre. D'autres acteurs pourraient rejoindre le marché parce qu'on est liquide, on peut venir valider et s'en aller. Donc Shanghai apporte un peu de confiance et de transparence en plus dans la roadmap d'Ethereum. Il y aura d'autres étapes dans les années qui viennent, mais Shanghai a été confirmé en mars. Et pour une fois, ça avance vite sur Ethereum.
Oui, ça s'appelle Shanghai. La précédente mise à jour s'appelait Paris, je crois. Enfin, c'est des noms de
villes. Alors, ils prennent des noms. Il y a eu Métropolis, il y a eu Byzance aussi. À chaque fois, il y a une volonté un peu d'esthète de nommer les mises à jour.
Et est-ce que cette annonce, Owen, de la mise à jour d'Ethereum a eu un quelconque effet sur le marché, sur les transactions? Est-ce qu'on a vu des réactions?
Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a, depuis le mois de septembre, depuis qu'on a un peu plus confiance dans la date à laquelle les Ethers vont être libérés, parce que vous le savez, quand Ether vous dit la mise à jour sera dans 2, 5, 8 mois, ça n'a pas toujours de la valeur, parce que parfois, Ether préfère faire ça bien que faire ça vite, et ça leur arrive de décaler encore et encore, aussi longtemps qu'il le faut, avant de faire une mise à jour. En l'occurrence, le fait que la date se précise par les équipes d'Ether vient donner un peu plus de certitude sur la date à laquelle les utilisateurs qui ont bloqué leurs Ethers dans un serveur informatique afin de pouvoir justement valider le réseau, vont enfin pouvoir récupérer ces Ethers. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un validateur Ether, on en bloque 32. On va donc bloquer 32 unités de la crypto-monnaie Ether pour pouvoir monter un validateur. Depuis que l'on a plus de visibilité et que l'on sait que ça va être vers mars que l'on va pouvoir récupérer ces Ethers, il y a eu 17% de nouveaux nœuds qui ont été créés et donc de nouveaux Ethers qui ont été bloqués sur le réseau. L'un des plus gros validateurs, donc l'une des entreprises qui a participé à la conception d'un maximum de nœuds, s'appelle Lido et a aujourd'hui 4,56 millions d'Ether bloqués. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on utilise Lido pour créer son nœud, Lido va nous prendre naturellement les 32 Ether qui vont être bloqués dans le réseau et va nous donner 32 ST Ether, une monnaie qui a, entre guillemets, une équivalence, un ST Ether égale un Ether bloqué. Eh bien, naturellement, l'ST Ether et le prix de l'Ether sont censés être proches de la parité, mais avec un prix qui varie, parce qu'un ST Ether est un Ether qui est bloqué et qui n'a donc pas tout à fait la même valeur. Cet écart avait grossi, était monté à un moment jusqu'à plus de 8%. Aujourd'hui, cet écart a été drastiquement réduit parce que l'on sait que très bientôt, on pourra rééchanger un ST Ether en un Ether et naturellement, ça rapporte beaucoup plus de fiabilité sur ce marché et beaucoup, beaucoup d'attentes sont dans les mois qui vont venir. Est-ce que quand les utilisateurs vont pouvoir retirer, les gens vont maintenir leur position? Est-ce qu'il va y avoir une grosse vague vendeuse ou au contraire, cette mise à jour et ce succès technique seraient encore une fois un moyen d'apporter de la crédibilité sur le jeton Ether et donc valoriser encore plus cette supply?
Voilà les clés et l'expertise de nos intervenants sur cette mise à jour donc d'Ethereum. Alors c'est vrai qu'à côté, la réforme des retraites, ça paraît simple, hein, le calcul de la retraite à côté de l'univers crypto, messieurs, c'est plus simple. On va rester dans la pédagogie et c'est l'une de nos missions, hein, dans ces pros des cryptos. On va parler à présent des agrégateurs de DEX. Oui. Vous verrez un jour, Trivial Poursuite proposera une question sur les agrégateurs de DEX. Ça viendra. Même le Scrabble l'acceptera. Et vous serez parmi les premiers, vous qui nous suivez, à avoir utilisé ces termes. Alors les DEX, ce sont les plateformes d'échange et d'investissement décentralisées. Et messieurs, on va parler carrément des agrégateurs de DEX. C'est quoi un agrégateur de DEX, Stanislas?
Tout d'abord, il faut expliquer quel est l'intérêt des DEX. C'est-à-dire quand on est en faillite sur FTX, qui est une manière centralisée d'échanger de la valeur, on essaye de regarder comment on le fait avec de la crypto, tout en gardant, on va dire, la conservation de ses actifs. Ça, c'est les caractéristiques propres de la crypto. Donc, on peut utiliser les services de finances décentralisées, notamment ces services d'échange qu'on appelle Decentralized Exchange, d'où DEX, pour échanger des jetons de crypto à crypto. Et ces DEX-là sont mis sur le devant de la scène. Le plus gros, c'est Uniswap. Mais quand on est utilisateur, aujourd'hui chevronné, on n'a pas de problème à aller sur Uniswap. Mais quand demain, on voudra profiter de la meilleure liquidité dans cette finance décentralisée, plutôt que d'utiliser Uniswap, on utilisera un service qui agrège tous les Uniswap et les concurrents d'Uniswap pour trouver la meilleure liquidité. Donc d'où ces agrégateurs de DEX. C'est-à-dire pour le grand public, sans le savoir, on utilisera peut-être Uniswap ou d'autres, ou des Français, je pense à Swap ou à Mangrove, et on utilisera leur liquidité pour se fournir. Et donc le grand public interagira plutôt avec ces agrégateurs.
Mangrove.
Ouais, exactement.
On aime bien Mangrove. Les jolis noms. Eh ouais, non, mais il y a quelque chose de l'esthète dans cet univers. On parlait Lido, il manquait plus que le Moulin Rouge. On va rester dans ces noms rigolos. DeFi Lama, un nom rigolo, ça peut rappeler les lamas, l'animal. Mais au-delà de ça, plus sérieusement, Owen, DeFi Lama, parmi ses agrégateurs, se distingue. DeFi Lama apporte, paraît-il, une vision nouvelle et innovante de l'écosystème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Je vous le concède, comme ça fait bizarre de commencer une prise de parole par l'agrégateur décentralisé DeFi Lama. Ça fait beaucoup de mots incongrus les uns à côté des autres. DeFi Lama est un agrégateur qui s'est fait connaître déjà à la base parce qu'il fournissait de la donnée sur l'intégralité de la finance décentralisée. À la base, on allait sur ce site-là pour savoir quels sont les plus gros agrégateurs de DeFi, quels sont les plus gros exchanges, quels sont les volumes qui passent sur une blockchain ou sur une autre, quels sont les outils les plus utilisés, les différentes collections NFT avec le plus de volume, ça donne énormément de métriques, de data sur ce qui se passe on-chain, donc sur la blockchain et sur ces différents réseaux décentralisés. C'est comme ça que DeFi Lama s'est fait connaître. En plus, DeFi Lama, contrairement à beaucoup d'autres protocoles, ne vous vend pas une crypto-monnaie ou des NFT. Ils ne proposent, et ils n'ont aucune promesse d'ailleurs, à faire un jour ou l'autre un NFT ou une différente crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, ils proposent leur propre DEX, c'est-à-dire leur agrégateur d'échanges décentralisés, je dirais même pire, un agrégateur d'agrégateurs de différents exchanges décentralisés. Alors quand on dézoome un peu, on peut se dire comment est-ce qu'on peut en avoir un modèle comme ça dans la blockchain? Parce qu'à la base, la blockchain, c'est un système sans intermédiaires, car en réduisant les intermédiaires, on réduit les frais. Eh bien, justement, c'est l'une des premières réussites du modèle DeFi Lama, c'est-à-dire que même si c'est un intermédiaire en plus, ils ne rajoutent pas une commission supplémentaire, puisqu'ils ont négocié avec tous les différents services qu'ils vont agréger une commission d'affiliation afin que les différents échangeurs décentralisés diminuent leurs marges, mais que ce coût supplémentaire ne soit pas justement à charge du client et de l'utilisateur final. C'est donc un outil qui est assez puissant et qui est très utilisé, qui a vu ses volumes grossir et gonfler, qui ont même dépassé ceux de Coinbase la semaine dernière, et qui devient pour beaucoup l'endroit où on va essayer d'échanger des crypto-monnaies au meilleur prix.
Merci messieurs, les pros des cryptos, ce rendez-vous pédagogique et le suivi de l'actualité, une semaine d'actu en 25 minutes. Owen Simonin nous accompagnait à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. Stanislas Guérini, qu'est-ce que je raconte Stanislas Guérini, ça c'est en politique.
C'est pas mal hein, si on
peut. Oui, non, mais bien sûr, mais rien à voir quoi. Stanislas Barthélémy.
Moi j'ai avec pas le dossier des retraites à gérer pour la fonction
publique. Voilà, exactement, c'est complexe aussi hein, les cryptos, mais très intéressant. Consultant blockchain partner pour KPMG France, merci d'être passé nous voir, merci messieurs.